Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Merci de nous suivre. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large avec le journal des médias, le journal de la culture, une interview exclusive du cinéaste Edward Norton et des inédits de Prince. Notre infomédia, le groupe Prisma, qui édite notamment Gala, Femme Actuelle, Voici, Télé Loisirs, Géo, lance ce matin 2 nouveaux services. Un site qui vous offre une expérience unique avec une célébrité et une plateforme e-commerce centrée sur l'astrologie. D'où cette question en forme de paradoxe. Et si l'avenir de la presse ne passait justement pas par la presse? Aujourd'hui, 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. France 3 s'associe à cette journée et programme ce soir une fiction inédite et excellente, je l'ai vu, d'un monde à l'autre avec Anne-Marie Vin et Pascal Demolon. Ils seront à ce micro. Enfin, le rappeur, slammer, auteur Abdelmalik, il est à la fois en tournée, il sort en roman et le New York Times lui a consacré une pleine page. Explication, il a été le premier noir en 157 ans à mettre en scène une pièce au théâtre du Châtelet, en l'occurrence Les Justes d'Albert Camus. Nous aussi, nous sommes justes, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, on démarre avec Pierre Desereaux de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
On démarre avec vous par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir?
And the winner is TF1. TF1 qui a facilement dominé les audiences de la soirée avec la suite de son drame historique, Le Bazar de la Charité, avec notamment Audrey Fleurot, Julie Debonat et Josiane Balasco. Toujours un gros carton pour Le Bazar. C'était les épisodes 5 et 6 et ceux-ci ont été suivis par 6 270 000 téléspectateurs. 27,8% de part d'audience. C'est un sans faute pour TF1.
Et là, c'était encore sur Twitter, il y avait des scènes érotiques hier soir.
Eh ben voilà. Il y en a tous les soirs.
Alors qu'elles avaient été coupées dans Grey's Anatomy
dimanche soir.
Dans 50 nuances plus sombres, je ne sais plus le titre exactement.
Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Et hier, en deuxième place, on retrouve M6 avec la 14e soirée de L'Amour est dans le Pré, l'émission de Karine Lemarchand.
Avec des scènes érotiques.
C'était la première partie.
Pardon.
C'était la première partie du bilan cette soirée où les fidèles de l'émission ont pu savoir si les agriculteurs étaient en couple ou célibataires. Et en moyenne, l'émission a rassemblé hier 3 580 000 romantiques, 15,8% de part d'audience.
Cyril Lacarrière, un commentaire?
Non, merci.
France 3 est troisième avec un nouveau numéro de Secret d'Histoire, le magazine de Stéphane Bern. Secret d'Histoire qui s'intéressait hier à Anne de France, la fille du roi Louis XI qui fut régente du royaume de France au 15e siècle. Les épopées d'Anne de France ont passionné 2 220 000 érudits, 9,2% du public. Et au pied du podium, c'est France 2. France 2 qui grimace un peu ce matin avec la suite de la série américaine The Fix. Après son démarrage mollasson la semaine dernière, The Fix a rassemblé hier 1 850 000 personnes, 7,6% de part d'audience. C'est pas terrible. Et du côté des autres chaînes, on a une chaîne qui est au million et qui est en très bonne forme. C'est TMC, la petite sœur de TF1 avec Star Wars. Épisode 1, La menace fantôme, le premier épisode de la deuxième trilogie de George Lucas. 1 400 000 téléspectateurs, 7% de part d'audience, donc c'est toujours très efficace, nos amis de Star Wars.
Et puis, vous vouliez nous dire un petit mot des audiences de novembre?
Oui, mais avant ça, je voulais aussi vous signaler un petit record sur Quotidien, un gros record même pour Quotidien, qui atteint pour la première fois cette saison la barre des 2 millions de téléspectateurs. Wow. Le talk show de Yann Barthès sur TMC qui est donc en très très grande forme.
Et peut-être que le succès de Star Wars s'explique ainsi, puisque Star Wars suivait Quotidien.
Exactement.
Alors, les audiences de novembre, Pierre.
Alors, les audiences de novembre, and the winner is TF1 again. Ouais. La Une a dominé les audiences avec, mais cale juste avait avant la barre des 20% de part d'audience avec 19,9% de part d'audience. L'audience de TF1 qui continue de se fragmenter lentement puisque c'est son pire mois de novembre historique. Novembre, ah oui, qui a en revanche profité à France 2, qui est en grande forme avec 13,9% de part d'audience, et à M6 qui affiche de belles couleurs et conforte sa place de 3e chaîne de France avec 9,6% de part d'audience. En revanche, Gulli pourra oublier le mois de novembre avec 1,2% de part d'audience. La chaîne jeunesse est au plus bas depuis juin 2008. Et à noter la belle chute de BFM TV sur un an qui perd 1,2 point de PDA, mais rien de très inquiétant puisqu'il faut dire que l'année dernière, en novembre, les audiences de BFM s'étaient envolées avec la crise des Gilets jaunes.
Merci beaucoup Pierre, à demain. Europe.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Le journal des médias maintenant, comme chaque jour, avec vous Cyril Lacarrière, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors, qu'avez-vous en kiosque ce matin au menu ?
Ce matin, nous avons de la Miss Féministe, les médias français qui n'aiment pas l'Europe, un tempora participatif et Philippe Catherine a un incroyable talent.
Bientôt, les Français vont choisir une nouvelle Miss France et on sait déjà qui ne regardera pas l'émission de TF1.
Si vous pensiez organiser une soirée Miss France et inviter Laurent Ruquier, je vous conseille de revoir vos plans.
Je voulais faire ça.
Mais voilà, c'est raté. L'animateur en a visiblement ras la casquette du concours de beauté de TF1 et il l'a fait savoir samedi soir lors de son émission « On n'est pas couché ».
Puisqu'il faut arrêter de regarder les femmes comme des objets, cesser de les juger sur leur physique et systématiquement privilégier les plus jolies, je lance un appel. Boycottons cette année l'élection de Miss France. En plus, c'est sur TF1, c'est très bien. Mais il y en a plein les journaux. On n'en peut plus de l'élection Miss France. C'est ringard. Faut être logique. Si on veut être féministe, on doit boycotter aujourd'hui le concours des Miss France. Ce sera déjà un bon début.
C'est ringard, voilà qui ne devrait pas faire plaisir au comité Miss France et à sa présidente Sylvie Tellier. Et parce que nous sommes des petits malins, nous avons proposé à l'ancienne Miss France de répondre à cet appel au boycott lancé par l'animateur de France 2. Nous l'avons eu ce matin au téléphone. Écoutez son avis.
Monsieur Ruquier est parfaitement libre de ne pas apprécier le concours Miss France. Il est libre de considérer que des jeunes femmes comme moi qui sont issues de ce concours ne servent pas la cause des femmes, bien évidemment. On est dans un pays libre, il est libre de penser, de s'exprimer. Je suis complètement respectueuse de cela. Par contre, lorsque Laurent Ruquier appelle au boycott de l'élection de Miss France sous prétexte qu'elle desservirait l'image de la femme, il me semble qu'il se trompe de combat. La définition du féminisme, c'est d'œuvrer pour l'égalité homme-femme et pour l'extension du rôle de la femme dans la société. Alors lorsqu'il appelle à boycotter cette élection au nom du féminisme, j'ai envie de lui répondre qu'en faisant cela, il piétine le choix qu'ont fait plus d'un millier de jeunes femmes cette année en se présentant au concours. Elles sont belles, elles sont brillantes, elles ont envie de vivre un conte de fées. Quel mal y a-t-il à ça ? Et en croire les millions de téléspectateurs qui suivent cette élection chaque année, je ne suis pas la seule à y penser.
Mais est-ce que Laurent Ruquier n'a pas raison quand même de s'étonner qu'un tel concours continue aujourd'hui d'exister à l'époque de MeToo ? On écoute à nouveau Sylvie Tellier, elle est interrogée par Alexandre Omar.
Je suis désolée, mais il faut arrêter de croire qu'il faut avoir du poil sous les bras pour faire avancer la cause des femmes. Personnellement, j'ai un bac plus 5. En droit des affaires, j'ai 3 enfants, je suis chef d'entreprise. J'ai décidé il y a 18 ans de défiler en maillot de bain. D'aller à la télévision, de se mettre au vote du public sur des critères physiques. Et j'en suis fière. Aujourd'hui, les femmes, elles doivent pouvoir être libres de leurs choix, de leurs rêves, de leurs engagements, et donc libres de se présenter à l'élection de Miss France.
Le concours Miss France, c'est le samedi 14 décembre sur TF1. Libre à vous de regarder ou de faire autre chose.
Cette information maintenant, les médias français ne parlent pas assez d'Europe.
Seuls 3% du temps d'antenne des radios et des télés françaises est consacré à l'Union européenne, à l'actualité de l'Union européenne. C'est ce que révèle une étude de la Fondation Jean Jaurès. Dans ces conditions, forcément difficile d'intéresser les gens à ce qui se passe en Europe. D'autant que deux sujets écrasent tout le reste, le Brexit et les questions de politique migratoire. Côté télé, c'est France 24, suivi de CNews et de BFM qui sont les meilleurs élèves. Et pour les radios, le podium est composé d'Europe 1, France Inter et France Info.
Cyril, vous voulez nous parler ce matin d'un nouveau magazine, non pas qui se lance, mais qui voudrait se lancer.
Oui, peut-être bientôt un petit nouveau dans les kiosques, mais avant de chercher des lecteurs, Tempora, c'est le nom de ce trimestriel, je cherche des soutiens. Ses fondateurs ont décidé de lancer une campagne de crowdfunding, le mot anglais pour parler d'une campagne de financement participatif. Pourquoi procéder de la sorte ? Nous avons posé la question à Émile Pacha Valencia, le rédacteur en chef de Tempora. Il est au micro de Louise Bernard.
Ça nous permet, nous, de communiquer sur le sujet, de tester le lectorat, de voir comment on va prendre le projet. Ça nous permet également de cibler aussi certaines personnes, d'interroger, d'aller vers ces gens-là qui ont un intérêt pour le Japon et de constituer une première base de lectorat qui vont nous suivre, qui vont nous accompagner sur le long de l'aventure. On l'a vu dernièrement avec Zadig qui s'est lancé. Ils ont fait une très belle campagne de crowdfunding. Et ça a permis de lancer le magazine sur une année, voire plus. Donc c'est aujourd'hui un modèle qui se développe de plus en plus pour les médias qui se lancent. Et ça nous a semblé tout à fait naturel, en fait.
Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce Tempora ?
164 pages consacrées à la culture japonaise et aux tendances dans ce pays avec, je cite, « une ligne intello rock, un rien pop ». Mais dans le contexte d'une presse écrite qui cherche les bons modèles, comment Tempora espère se faire une place sur le marché ? Élément de réponse avec Émile Pacha Valencia.
On le voit avec des succès comme tous les succès des MOOC dernièrement, Zadig, America. Il y a une place pour les médias plutôt haut de gamme. Sur du temps long, des trimestriels, 164 pages, 200 pages, avec des longs articles et qui permettent d'aller au fond des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, le Japon est traité très en surface. Dans les médias aujourd'hui, le Japon est souvent traité à travers la pop culture, donc les mangas, les sushis, les samouraïs, ce qu'on connaît, et assez peu finalement à travers des questions de société ou à travers des thématiques culturelles un peu plus variées. Et ce qu'on voulait, nous, donc, c'était sortir un peu des sentiers battus et prendre le contre-pied de ce qui se disait déjà sur le Japon.
Si vous souhaitez donner un coup de main à Tempura, vous pouvez vous rendre sur le site kisskissbankbank.com. Vous y trouverez la page de Tempura. Il cherche 20 000 euros pour se lancer.
20 000 euros en tout, hein. Ce soir, c'est la seconde demi-finale de la France à un incroyable talent. Et pour l'occasion, un invité exceptionnel sur le plateau.
Il a la voix douce et suave. Il a un style, disons, inclassable. Il a du succès dans la chanson, mais également en tant qu'acteur, puisqu'il a remporté un César. Et il maîtrise l'art de la natation synchronisée. Et il est blond. Après Ahmed Silla la semaine dernière, c'est donc au blond Philippe Catherine de s'inviter ce soir dans la deuxième demi-finale de la France à un incroyable talent sur M6. Le chanteur, acteur, écrivain, metteur en scène et j'en passe viendra prendre place aux côtés de Marianne James, Eric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy pour choisir les quatre derniers demi-finalistes du jeu de la 6. Et à tout seigneur, tout honneur, Philippe Catherine aura à sa disposition un golden buzzer, un buzzer doré qui lui permettra d'envoyer...
Un buzzer blond.
Un buzzer blond, tiens, oui, bonne idée. Qui lui permettra d'envoyer directement son candidat favori en finale. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous propose d'écouter un petit passage avec Philippe Catherine qu'on entendra, qu'on verra ce soir.
Bravo, c'est extrêmement spectaculaire. J'ai quand même vu les auditions avant de venir ici. Je me suis renseigné. Attention, je n'arrive pas vierge. Et je vous avais déjà sérieusement repéré.
Personne ne pensait que tu arrivais vierge.
Non, bien sûr. Vraiment, ce que vous faites, pour moi, m'évoque bien sûr les tableaux de Picasso du début du siècle, c'est-à-dire le cubisme, qui... quand même avait la faculté de changer notre vision des choses. Et c'est un peu ce que vous me donnez à voir, c'est-à-dire vous me changez la vision que j'ai du monde et de l'humain en général. Et bravo.
Catherine pur sucre, mais je ne vous en dis pas plus. Pas de spoil sur l'utilisation non plus de ce fameux golden buzzer. En tout cas, tout va bien pour l'émission de M6 qui cartonne hein, derrière dans les émissions de Flux, derrière L'amour est dans le pré et qui réalise des scores identiques à Danse avec les stars sur TF1. Parole de notre spécialiste Pierre Audio. Desro, la demi-finale de la 14e saison de La France a un incroyable talent. C'est ce soir sur M6 à partir de 21h05.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Rendez-vous demain pour un nouveau tour de l'actualité des médias.
À suivre l'infomédia du jour avec au programme la crise de la presse ou comment les groupes de presse se diversifient pour continuer à exister. On en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Et on l'a souvent dit à ce micro, la presse papier doit sans cesse se réinventer et innover pour survivre, toucher de nouvelles audiences, séduire de nouveaux lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Après la transition digitale, quand les médias traditionnels ont découvert Internet, voici que s'ouvre un troisième chapitre. Désormais, il faut inventer de nouveaux leviers. C'est le thème de notre info média du jour autour du groupe Prisma Média. Prisma, c'est pas moins de 20 marques, notamment Gala, Femme Actuelle, Voici, Télé Loisirs, Géo, Ça m'intéresse, Capital et même Miaou Magazine. Prisma qui lance donc ce matin deux nouveaux services innovants. D'abord Formidable, ME, ça se prononce Mi en anglais, Formidable, un site qui offre la possibilité de vivre une expérience mémorable avec une célébrité tout en soutenant une association. Et puis Céleste, une plateforme e-commerce centrée sur l'astrologie qui propose de révéler la personnalité de l'internaute grâce à sa carte du ciel. Des réponses, mais qui sous-tendent cette question éminemment paradoxale. Et si l'avenir de la presse ne passait justement pas par la presse? Pour y répondre, je reçois Pascal Soquet. Bonjour Pascal.
Bonjour Philippe.
Vous êtes la directrice exécutive des pôles femmes et TV Entertainment à Prisma. D'abord, avant d'entrer dans le détail de ces nouvelles offres, comment se porte le groupe Prisma?
Le groupe Prisma se porte très bien. Aujourd'hui, on est un groupe full média. On touche 40 millions de Français chaque mois. Leader sur à peu près toutes nos activités. Sur le digital, c'est plus de 7 millions par jour d'utilisateurs que nous touchons. Et en termes de vidéos, puisqu'on s'est largement transformé sur la vidéo, c'est 400 millions de vidéos vues par mois. Donc le groupe se porte très bien.
Par mois, vous venez de dire full média, c'est quoi full média?
Full média, c'est du print, du digital,
du
de
print,
la vidéo,
ça veut dire de la presse écrite
et de l'audio.
D'accord.
Donc on donne autant à lire, à voir et à écouter aux Français.
Mais alors, question sous-tendue parce que vous venez de dire, si tout marche bien, pourquoi vous vous diversifiez?
pour aller plus loin. C'est toujours plus facile de continuer à se diversifier, à innover quand on est sur des bases solides. Donc les bases sont solides en termes d'audience globale. Les bases sont solides, vous en avez parlé, en termes de marques, avec des marques fortes, avec des territoires de marques qui sont riches.
Mais parfois, il y a des marques très fortes qui ne se vendent plus. Hein. Je vous rappelle que François Racoulet, qui était une marque très très forte, qui était le plus grand journal français. C'est pas parce que la marque est forte que ça prédit un brillant avenir.
Oui, alors les nôtres le sont. Et elles ont surtout des territoires d'image qui sont extrêmement riches et qui nous permettent de voir un avenir plutôt enthousiasmant. Et notre volonté aujourd'hui, au-delà des médias finalement, c'est d'aller développer des services payants. On surfe en fait sur trois grandes tendances, trois grands insights en fait des Français. On développe nos business sur le business de l'innovation for good, sur l'expérience et puis bien sûr sur la personnalisation.
L'innovation for good, l'innovation pour le bien. J'ai fait anglais première langue. Alors formidable. Site censé offrir une expérience avec une célébrité en contrepartie d'un engagement, c'est comme ça que c'est écrit. Quel genre d'expérience, quelle célébrité, quel engagement?
Alors, formidable, c'est vraiment un business qui est gagnant, gagnant, gagnant. Je vais parler en français. Ouais. Il est gagnant pour l'auditeur, pour le consommateur, hein, puisqu'en fait, on va lui proposer enfin un service qui lui permet d'accéder aux dons de façon déculpabilisée, de façon plutôt fun.
Par exemple, alors?
Par exemple, on peut gagner un raid en Islande avec Laurie Tillman et Laure Manaudou au profit de leur association, l'association qu'elles soutiennent, qui est Keep Abreast, à travers ce site-là. Donc, l'auditeur va gagner des expériences en sous, il va miser à peu près 5 euros ou plus au profit de l'association. Il va participer à un petit jeu et c'est un jeu concours et le gagnant pourra profiter de l'expérience.
Tout le monde pourra y aller? C'est que pour les filles, pour les garçons, en l'occurrence, parce que Keep Abreast, j'imagine la poitrine, j'imagine des filles, c'est pour les filles, pour les garçons.
Et c'est ouvert à tous.
Et il faut pas être en bonne forme, parce qu'un raid en Islande, il faut y arriver.
Oui, après si vous participez pour gagner un raid en Islande, c'est que, a priori, vous êtes apte à le faire. Je peux donner un autre exemple, qui est moins sportif, mais tout aussi fun. Vous pouvez gagner un relooking avec Christina Cordula, que j'aime beaucoup. Ouais. Et là, on est dans... dans le fun.
Un relooking magnifique. Il y a aussi un déjeuner avec le chef Guy Savoie, dont le restaurant La Monnaie a été élu meilleur restaurant du monde. Donc ça sera beaucoup moins cher que deux couverts chez Guy Savoie. Mais il faut gagner, c'est ça le principe.
Il faut gagner.
Il faut gagner.
Il faut gagner.
Alors il y aura aussi un séjour ultra VIP au Castel Marie-Louise et à la Baule avec Michel Larocque, un séjour privé.
Avec une rencontre, effectivement.
Mais est-ce qu'on va voir débouler François Baroin? Parce que si c'est ultra privé, vu que c'est son compagnon à la ville et que j'imagine qu'ils n'ont que le week-end pour se voir, vous n'aviez pas pensé à ça du tout?
Non, absolument.
Alors est-ce qu'il
Mais
va débouler?
Pourquoi pas?
Il peut débouler. Donc ça coûte 5 euros à chaque fois, c'est 5 euros.
Alors c'est, il faut un minimum de 5 euros.
D'accord.
Après, vous pouvez donner plus si vous le souhaitez,
ouais.
Pour soutenir davantage l'association partenaire.
Il y a aussi une deuxième offre qui s'appelle Céleste.
Oui.
Vous savez ce qui va nous arriver là maintenant?
Pour cela que vous allez sur le site.
Pas du tout.
Vous allez avoir un magnifique podcast.
Mais non, pas du tout.
Qui va vous expliquer les choses.
C'est le principe de l'astrologie. Ça prédit l'avenir. Je peux vous dire que dans 5 minutes, on se retrouve.
Oui, puisqu'on va parler de la crise de la presse dans l'infomédia du jour. On y revient dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Comment les groupes de presse se diversifient? On en parle ce matin dans l'infomédia du jour avec votre invité Philippe, la directrice des pôles femmes et TV Entertainment du groupe Prisma, Pascal Soquet. Le groupe Prisma qui lance deux innovations, dont Formidable, qui propose des rencontres avec des stars.
Tout ça se passe avec des associations également. Lesquelles? Comment vous les avez choisies?
Alors les associations, nous ciblons plutôt les associations de taille moyenne,
ouais.
Parce qu'elles ont besoin de nous. Par rapport aux grandes, bien sûr, on peut être amené à travailler avec les grandes. Les associations de taille moyenne nous intéressent parce qu'elles ont le savoir-faire, mais elles ne savent pas forcément travailler le faire savoir. Nous sommes un groupe média, donc au-delà de l'expérience qu'elles vont proposer sur le site, on va les accompagner derrière pendant un an en termes de visibilité. Et donc on cible plutôt les associations de taille moyenne.
Mais je pense à quelque chose. Quand on donne de l'argent pour, par exemple, aller passer un week-end avec Michel Larocque ou faire une semaine de raid en Islande avec Laurie Tillman et Laure Manaudou, les gens qui donnent cet argent, une partie va à Prisma, une partie va à l'association.
Absolument.
C'est quoi le ratio?
Alors on va reverser 60% des gains en direct à l'association. Et sur les 40% restants, on va réinvestir 30% pour produire les expériences et pour accompagner l'association pendant un an.
Et ça sera filmé?
Les expériences, oui, ouais. Bien sûr.
Donc on les verra sur le site.
Bien sûr.
Donc en fait, tout est en boucle, c'est ça le 360,
évidemment.
Le full média.
Évidemment.
Donc on peut se retrouver. Donc si on fait ça, il faut signer une décharge comme quoi on accepte d'être vu au petit déjeuner avec Michel Larocque au Castel Marie-Louise.
Par exemple.
Avec les mollets pas épilés. Votre seconde offre s'appelle Céles. Il s'agit cette fois d'une plateforme de e-commerce spécialisée dans l'astrologie. Comment ça marche ?
Alors là, c'est un service personnalisé. On s'essaye au e-commerce, puisque vous pouvez commander en fait votre thème astral qui va être produit et vous allez recevoir un tableau magnifique puisqu'il est designé en fait par des designers. Et associé à ça, nous sommes un groupe média, donc vous allez recevoir votre podcast personnalisé qui va être raconté. On va vous raconter votre thème. C'est un astrologue qui va le faire.
Est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts au sein du groupe Prisma ?
À quel niveau ?
Parce que moi, je me souviens très très bien avoir lu dans Ça m'intéresse, qui est un journal de votre groupe, que l'astrologie, c'était du pipeau.
L'astrologie n'est pas du pipeau.
Bah, vous direz aux gens qui écrivent pas. Dans Ça m'intéresse.
Et ça correspond à un train de fond aujourd'hui.
Ouais. Parfois, vous parlez en
une
français.
Attente.
Une attente. Train, c'est une tendance. Les deux projets dont on vient de parler, alors pardon, c'est encore de l'anglais, sont issus du Wonder Open Lab. Est-ce que vous pouvez traduire et nous dire de quoi il s'agit ? C'est quoi ce labo ?
Alors, pour accompagner la transformation sur ces nouveaux services, Prisma a plusieurs laboratoires d'innovation. Il y en a un qui s'appelle Demain, qui a été ouvert il y a à peu près 2 ans, qui est un excubateur et qui va identifier des entrepreneurs ou des intrapreneurs et porter les projets de ces derniers et les accompagner. Et puis le WOL, donc le Wonder Open Lab, qui est une démarche d'innovation globale qui répond à 3 objectifs. Bien sûr, développer de nouveaux business, c'est le cas de Formidable et Céleste. Également de travailler l'empowerment au sein de l'équipe. Oui, encore un mot anglais.
Empowerment, c'est se, rendre plus, se sentir plus fort.
Se sentir plus fort. En tout cas, gérer, accompagner cette transformation également avec les équipes internes.
Ouais.
Donc il y a vraiment cette volonté d'embarquer les équipes. Et puis, il y a à peu près 200 collaborateurs du groupe qui sont déjà impliqués dans cette démarche. Et bien sûr, aussi développer un écosystème partenarial. Les partenariats sont de plus en plus importants et on en monte beaucoup avec des écoles de design, des écoles tech, des écoles de commerce, mais également des entreprises. Je pourrais citer Engie ou BNP Paribas.
Est-ce qu'on n'arrive pas à il n'y aura pas un avant et un après dans la presse où maintenant les groupes de presse se mettent à faire qui est tout à fait autre chose que de la presse ?
Ah, ça fait longtemps. La presse écrite, la transformation,
bien
la première
sûr.
Transformation.
Mais quand vous regardez de la vidéo, c'est encore de la presse. On a un site Europe 1, ce sont les mêmes équipes, les rédactions sont ensemble, on fait le même métier.
C'est du contenu. C'est du contenu avec des métiers qui se diversifient aussi. Quand on fait de la vidéo, on va recruter des motion designers, des patrons de la vidéo. Ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers que le métier de journaliste de presse écrite. Il y a des ponts. Et tout ça doit se faire en bonne intelligence. L'intelligence collective, c'est un mot-clé dans nos métiers.
Ouais.
Mais il y a déjà une diversification des métiers qui s'opère depuis une dizaine d'années.
Et vous dites qu'il y a des ponts, Pascal Socquet. Est-ce que votre objectif, ce n'est pas tellement de gagner des nouveaux lecteurs, mais plutôt d'élargir votre communauté ? Est-ce que les gens que vous allez séduire grâce à ces programmes, à ces innovations, vont se mettre à aller acheter Gala, Voici ou Miaou Magazine ?
Bien sûr, c'est un cercle vertueux. On parle de médias, de supports médias, mais il y a des marques en fait qui sont nourries par ces supports médias. Il est évident que les marques vont nous permettre de développer de nouveaux services et que les nouveaux services vont nourrir les marques, donc les magazines.
De quelle manière ?
Notoriété qualifiée, préférence de marque. On va vraiment travailler, nourrir nos territoires de marque et ça va renforcer aussi l'ensemble de nos médias.
Merci beaucoup Pascal Socquet, vous êtes directrice exécutive des pôles Femmes et TV Entertainment chez Prisma Media. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.
Merci Philippe.
C'est la journée internationale des personnes handicapées. On va en parler autour du téléfilm D'un monde à l'autre proposé par France 3 ce soir dans un court instant sur Europe.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Anne-Marie Vin et Pascal Demolon.
Bonjour Anne-Marie Vin.
Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal Demolon.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Cette journée vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société. Et France 3, la chaîne, s'associe à cette journée et programme ce soir une fiction inédite et excellente que j'ai vue. Ça s'appelle D'un monde à l'autre. Vous avez les deux rôles principaux. Qu'est-ce que ça raconte ? D'abord Anne et ensuite Pascal.
Alors,
de votre point de vue.
Alors, D'un monde à l'autre, le titre est... pour une fois excellent, c'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire d'un homme 50 ans non toi t'as 35 dans la vie mais pour de vrai le personnage
vie,
a 50
oui,
ans et valide toutes ces années, à un moment donné accident, Il va devenir paraplégique, malheureusement. Et après une année entière de rééducation, de centre et tout, il va réintégrer sa famille. Et c'est ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que l'histoire commence.
Contrairement à beaucoup d'actrices, Anne-Marie Va, vous n'êtes pas auto-centrée parce que vous n'avez même pas dit que vous étiez son épouse.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai. Et je joue le rôle de son épouse. Donc, une compagnonne, j'ai envie de dire, parce que ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble depuis 25 ans. Ils ont deux enfants. Ouais. C'est un couple qui roule avec ses hauts et ses bas. Mais alors là, en face d'un drame comme celui-ci et d'une épreuve comme celle-ci, qui est tout d'un coup de retrouver un mari qui n'est plus tout à fait le même. Ben voilà, c'est le cataclysme que ça engendre au sein d'une famille.
Alors, ce qui est vraiment très intéressant dans ce film, c'est que Thomas, votre personnage, Pascal de Molon, se trouve, comme dit le réalisateur, dans un océan de bienveillance. C'est que tout le monde ne lui veut que du bien, mais lui, ça coince, ça grince.
Il a du mal parce qu'il a le sentiment de ne plus être à la hauteur de, justement, de tout cet amour. Et j'adore quand tu racontes.
Alors, c'est vrai.
Oui, j'ai très envie de le voir.
Mais j'attends qu'on repart ce soir.
Vous l'avez pas vu ? Vous l'avez vu ou pas vu ?
On l'a vu, mais il y a longtemps.
Il y a très longtemps.
Pour être très honnête.
Oui. D'accord. Donc vous l'avez plus en souvenir. Alors je vais vous aider.
Si,
bien sûr. Non, je plaisantais du tout.
Ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit.
J'allais continuer en disant que oui, effectivement, elle a bien résumé la situation. Ce qui est très beau dans ce téléfilm, c'est tout autant les difficultés qu'il traverse lui, c'est-à-dire ce nouveau monde dans lequel il va entrer, autant que le regard que les gens, justement, qui l'aiment avec toute leur bienveillance.
Ah mais ouais.
Vous parlez du regard. À l'épreuve.
Vous parlez du regard. Il y a une séquence où Anne, vous êtes obligée d'expliquer à la maman de Pascal. Ton fils n'est pas malade, il est en fauteuil, il lui reste 40 ans à vivre.
Ouais, il n'est pas mort.
Ouais.
Parce que d'un coup, il y a un deuil, mais de la part de tout le monde, quoi, d'ailleurs. D'abord, du personnage de Pascal, qui tout d'un coup a ce corps qui n'est plus le même, avec lequel il va devoir vivre encore peut-être 40, 50 ans. Donc il va falloir redécouvrir avec ce corps, ce qui est extrêmement difficile. Et puis, tout autour, les enfants qui ont connu un père très actif. Alors attention, je ne veux pas non plus, parce qu'elle est très importante, cette journée des droits justement des personnes handicapées, parce que ça me met très en colère que dans un pays comme celui-ci, avec des richesses quand même, on mette à ce point, enfin on les occulte complètement, quoi, les invalides, qu'ils soient de naissance ou alors qu'ils le deviennent via des drames de vie, des accidents, parce qu'on en a rencontré plein. Hein.
J'allais vous poser cette question à tous les deux, comment avez-vous préparé votre rôle ?
La vie ne s'arrête pas parce qu'on devient invalide.
Ouais. Sûrement pas, non.
Vous en avez rencontré plein ?
Oui, beaucoup, Pascal. Ouais. Nous aussi, parce qu'on a tourné dans un centre de rééducation qui se trouve à Cap-Breton, et évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est génial, hein. Ils sortent tous quand même de 1 an, 2 ans, 3 ans d'un vrai calvaire. Mais voilà, il y a une énergie, une force de vie qui fait que la vie ne s'arrête pas, quoi.
Racontez les rencontres que vous avez faites, Pascal de Molon. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les gens sur les fauteuils ?
Ils parlaient beaucoup de la vie, ils parlaient beaucoup aussi de ce sentiment qu'ils avaient d'être regardés parfois avec compassion, et eux n'en veulent absolument pas. C'est-à-dire que, sans démagogie, ils ont le sentiment de pouvoir regarder non seulement les autres, mais la vie à la même hauteur. Et c'est ça qui était extraordinaire. Rapidement, l'exemple d'une jeune fille qui devait avoir à peu près 19 ans.
L'ancienne surfeuse ?
Oui.
Ah, sublime.
J'y repense encore, comme à tous ceux qu'on a rencontrés, et qui donc s'est retrouvée gravement handicapée, et donc privée du bonheur qu'elle avait de faire du surf dans un premier temps. Mais son désir était tellement important qu'elle a fait adapter une planche pour reprendre cette sensation, pour reprendre la mer. Et à un moment donné, elle avait donc une prothèse au bras, et je vois une petite partie métallique sur cette prothèse, et je lui demande, pardonne-moi, mais qu'est-ce que c'est ? Elle me dit, ça, c'est un décapsuleur pour les bouteilles de bière, voilà.
Vrai, j'adore. Vrai. Enchaînement, tout trouvé, parce qu'au départ, vous êtes complètement déprimé. Finalement, vous vous laissez convaincre par vos potes de sortir en boîte. Vous rentrez ivrement, vous prévenez pas votre femme que vous êtes sorti en boîte. C'est un pote qui vous ramène en caisse, qui est ivre mort autant que vous. Anne, vous lui passez un savon
évidemment.
Quand il revient, il y a vous deux, vos deux enfants, Julien et Charlotte, on écoute.
Regarde-moi, je suis plus que la moitié de moi-même. Tu veux quoi ? J'ai besoin d'oublier. Tu comprends ?
Je te demande d'appeler pour me prévenir, pour nous prévenir.
Moi et Charlotte, on t'appelle quand on est en retard, non ?
La différence, c'est que je suis ton père et que je suis un adulte.
Pardon ? T'es un adulte, toi ? Et tu sors, tu te bourres la gueule, c'est un comportement d'adulte ?
Julien.
Reste, il y a des trucs à dire, je t'écoute.
Non, mais t'as déjà bousillé nos vies, autant qu'on te nourrisse la petite cuillère jusqu'à que tu crèves, non ? C'est ça que tu veux, qu'on soit handicapé comme toi, en fait ?
Julien, s'il te plaît, va dans ta chambre.
Mais vivement l'année prochaine, quoi, que je me casse. Qu'est-ce que tu fais là ?
Mais toi, tu peux lui parler comme ça ?
Mais de quoi tu te mêles ?
De ce qu'il me regarde, t'imagines ce que c'est pour lui ?
Ah, donc ça lui donne tous les droits ? Eh, faut que t'arrêtes de faire comme si tout allait bien. Il s'est mis dans la merde tout seul et toi, tu lui pardonnes tout.
Je lui pardonne pas tout, j'essaie de me mettre à sa place. Toi, Tu penses qu'à toi et tu fais comme si il a vu l'accident que pour te faire chier.
Il a eu l'accident parce que c'est un putain d'irresponsable. Regarde-le, il sait même pas ce qu'il fait.
C'est son caractère, c'est papa, il est comme ça.
Arrête Charlotte, c'est plus papa et tu le sais très bien.
C'est violent ça, ça disloque souvent les familles.
Oui. Oui,
forcément. Oui, systématiquement, hein, c'est ce qu'ils nous disaient tous quand même. Il y a un moment, d'autant que ils s'en prennent directement à leurs plus proches. Donc c'est eux qui vivent ça de plein fouet aussi. Ouais. Et c'est extrêmement difficile d'arriver à s'adapter aussi quoi, à cette nouvelle vie.
Oui, c'est une culpabilité en somme. C'est-à-dire que là, ils s'en défend en disant, voilà, je fais ce que je veux, comme je veux. Voilà. Mais en réalité, ils portent un poids parce qu'on ne peut aussi être conscient que de voir le mal que ça fait autour de nous. Et ça, on...
Alors, je ne vais pas tout spoiler, mais tout n'est pas si noir. Et puis, il y a aussi une autre dimension dont on n'a pas parlé. Je pense à ce à quoi tout le monde pense. À tout de suite.
D'un monde à l'autre, c'est le téléfilm que vous propose France 3 ce soir à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. On continue à en parler avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
D'un monde à l'autre, téléfilm qui passe ce soir sur France 3, l'histoire d'un père de famille qui se retrouve paraplégique après un accident de voiture. Il doit désormais apprendre à vivre avec son handicap qui le laisse dépendant. Et on en parle ce matin, Philippe, avec les deux acteurs principaux de ce téléfilm, Anne Marivin et Pascal Demolon. Et on va parler de Anne...
Sexe.
Voilà. Oui, vous ne saviez pas que votre micro n'était pas coupé. Il y a la première scène, quand Pascal, vous revenez, enfin votre personnage revient à la maison du centre, je rappelle que vous êtes paraplégique dans ce film, vous êtes au lit, Anne, vous êtes pleine de tendresse, et là Thomas vous dit, chaque fois que tu as un geste d'amour, j'ai l'impression qu'il y a de la pitié dedans, ne te donne pas cette peine. Vous avez posé ces questions-là aux gens handicapés, qu'est-ce qu'ils vous disaient ?
C'était très important pour nous tous, et pour le réalisateur Didier Bivel, de ne pas faire l'impasse sur ce sujet qui est la sexualité quand on est invalide, parce que voilà, on ne cesse pas d'être un homme et on ne cesse pas d'être un couple parce que tout d'un coup, on est handicapé. Donc, dans la réalité, quand on est paraplégique, on s'est beaucoup renseigné, c'est un vrai rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a une injection à faire dans la verge pour pouvoir avoir une érection. Alors, tous les relations amoureuses ne se font pas avec la pénétration, on le sait bien, ça peut se passer autrement, mais en tout cas, si l'homme a envie à un moment donné, c'est un rendez-vous. Donc, c'est vraiment un truc à prendre en compte et c'est hyper important d'en parler dans une fiction, je trouve.
Je suis d'accord avec vous. Dans le film, c'est moins concret que ce que vous faites là, Anne-Marie Vin.
On écoute. Ça, c'est mon côté infirmière.
C'est Thomas, votre personnage qui est handicapé. Vous êtes à l'hôpital et vous avez une réunion avec une dizaine d'autres handicapés, tous sur des fauteuils roulants, des garçons et aussi des filles. On écoute.
Bon, vous savez tous que dans 4 jours, je rentre chez moi.
Oh.
Et dans 4 jours, je vais rentrer dans un lit et si tout va bien, ma femme sera dedans.
Si tout va bien.
Si tout va bien. Donc, si tout va bien.
Donc voilà, ce que j'ai là, c'est de me dire comment quoi. Bon, ça va Mathilde, c'est bon, tu sais très bien de quoi on parle.
Non, Thomas, je vois pas
Est-ce
de quoi
que
tu parles.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ah, lui Thomas.
Comment je vais pouvoir donner du plaisir à ma femme, voilà.
Ah, alors je sais pas comment tu faisais avant, hein. Il y a d'autres moyens de donner du plaisir à une femme, hein, qu'avec ton machin.
Eh ouais.
Non, mais bon, voilà.
Je dis pas que tu flippes quand même.
Bah si, les gars, voilà, je flippe.
Et alors, Pascal Demolon, les gens que vous avez rencontrés, ils flippaient ?
Oui.
Les gens sur des fauteuils, les garçons ?
Oui, ils flippaient, je flippais aussi. Ils flippaient, nous flippions. Oui, oui, bien sûr, parce que y a forcément, quand on aborde un sujet comme ça, en plus avec des gens qui ne sont pas forcément dans notre intimité, voilà, donc. Même en parler, là, parce qu'il y avait à la fois un peu d'improvisation et de dialogue écrit. Oui, oui, on flippait. Et puis, pour la plupart, quand même témoigner du fait que leur sexualité n'était pas morte, effectivement, et qu'elle était importante aussi pour eux.
Comment un handicapé peut donner du plaisir à sa femme ? C'est vrai que la question était toujours éludée dans les reportages, moi je ne l'ai jamais vu évoquée.
Ah oh, si, moi j'ai vu un documentaire qui était vachement bien justement
centré là-dessus.
Oui, exactement. Sur mais si les c'est rendez-vous pas... avec des prostituées, des
si
choses
c'est
comme
pas...
ça. Enfin...
Vous avez raison, mais si ça n'est pas centré spécifiquement là-dessus, c'est toujours éludé n'est pas éludé dans ce film qui passe ce soir et c'est pas la
mais
moindre
la question de
ses qualités.
Aussi.
Oui.
L'argent. Et ça aussi, c'est intéressant de voir combien coûte le fait de, à un moment donné, réaménager son habitat, tout ça. Et tout ça, ça coûte vachement d'argent.
Ça coûte
d'argent,
très cher. L'allocation adulte handicapé, je l'ai pris là, c'est au maximum 810 euros par mois. Ouais. C'est très, très faible. Je suis allé voir, la France est quand même le 7e pays. Il n'y a que 6 pays dans le monde qui font mieux que nous. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Un rôle de salaud encore de Molon?
Non,
qu'avant,
merci.
Il faisait toujours que des rôles de salaud.
Non,
il n'en pouvait plus.
Non, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai pas fait que ça. Je ne sais pas. Coïncidence. Non, on a entendu dire que. En réalité, là, je viens de terminer le tournage d'un film avec, réalisé par Audrey Dana, avec François-Xavier de Maison, Thierry Lhermitte, Ramzy, non, qui est plutôt dans le ton de la comédie, avec du fond. Voilà. Ouais. Je ne dis pas ça pour vendre le film, mais c'est vrai, il y a du fond et on rit.
Et alors moi, je sortirai un film l'année prochaine, encore avec ce Ramzy, dis donc, il est très présent partout. C'est un film pour enfants, Toto, et là, je suis en train de tourner sur 10%, la série pour France Télévisions.
Ah, formidable, voilà. Toto, vous racontez des blagues?
Exactement, vous allez voir, Philippe.
C'est pour ça qu'elle a accepté le rôle, c'est pour
j'en ai pas mal
blagues.
Dans ma hotte.
Alors, et j'ai vu que vous aviez un point commun, vous avez tous les deux fait des petits boulots incroyables.
Ah bah plein.
Alors, Pascal.
Ouais.
Vous avez été dératiseur.
Mon Dieu, oui, j'ai fait. Oui, j'ai retrouvé ma fiche de salaire il n'y a pas longtemps.
Rédacteur de protocole de médicaments.
Oui.
Contrôleur de tickets.
Oui.
Placeur d'abonnement, c'est vrai. Et vous, Anne, vous avez fait quoi?
Oula, alors moi j'ai fait du téléphone rose.
Voilà, stop, ça suffit. Merci, c'était ma chute. Elle le sort en premier. Normalement, c'est la chute. Elle y va droit, direct. Merci Anne-Marie Vin. D'un monde à l'autre, c'est ce soir sur France 3 à 21h. Merci également Pascal de Molon d'avoir été avec nous et cette bienveillance sur Europe 1 en direct.
Merci de votre accueil.
Dans un instant, c'est notre heure culture, mais juste avant, place aux digressions des radoteurs avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gilles.Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup,
rien. Nous sommes mardi, bonjour Gilles. Hier, nous parlions de Trump. Vous appréciez cet homme politique.
Mais ça n'a pas de sens.
Pourquoi vous n'aimez pas Trump?
Mais sa vulgarité, sa misogynie, son manque de
délicatesse,
d'élégance. Son ignorance des mécanismes du pouvoir, son ignorance de la géopolitique.
Pourquoi vous dites que vous aimez ce type-là, alors?
Je dis que il faut apprendre à connaître l'autre.
Mais vous allez souvent aux États-Unis.
À New York, pas aux États-Unis. On sait bien ce que c'est que New York.
C'est non, c'est pas ce que c'est.
Mais vous connaissez le café
au fond à gauche, là, sur un coin.
Oui.
Des très bonnes anisettes là-bas. Ils servent du café dans des verres en bois et c'est vachement bon. Ça ferme très tôt le soir et ça n'ouvre pas le matin. Comme ça, on ne boit pas, il n'y a pas d'excès. Voilà. Tout est briqué. Briqué, vous savez ce que ça veut dire, du verbe brick. Break your break, take a break. En Angleterre, c'est devenu Brexit.
Donc vous connaissez bien la ville. Donc.
Qui est le maire de New York actuellement?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas non plus. Je ne sais même pas pourquoi je m'évertue à vous poser des questions.
Et c'est dit quoi?
DiCaprio, non?
Non, c'est pas DiCaprio.
DiMaggio.
Voilà, c'est DiMaggio.
C'était de Marie de Marilyn. Absolument. Qui n'était pas boxeur.
Non.
Mais qui n'était pas le fils de sa sœur non plus.
Si, mais pas tous les jours.
Il y a un truc qui me rend dingue. Peut-être que ça va vous laisser de marbre.
Allez directement à votre pensée là qui s'évapore dans des brumes d'alcool.
Vous avez vu qu'on a interdit la cigarette électronique aux États-Unis parce qu'il y a eu quelques morts avec la vaporette. Il n'y a pas quelque chose qui vous gêne là-dedans?
Je n'ai pas suivi l'affaire.
En revanche, la cigarette qui fait des millions de morts, on la laisse en vente libre, ça vous perturbe pas?
Il doit y avoir une raison.
Le cynisme peut-être.
L'Amérique dans tout ce plan. Ce qui est fascinant aussi là-bas, c'est que la justice passe à une vitesse. Si un puissant est accusé de quelque chose, il va en taule le lendemain.
Mais Clinton, il a été empêché, il n'a pas été empêché.
Il n'a pas été empêché.
Le seul qui a été empêché et qui s'est empêché, c'est Nixon, qui est parti avant d'être empêché.
Il n'a pas été empêché.
Vous qui ne connaissez pas les États-Unis, vous le savez, ça.
Il est parti avant d'être empêché.
Oui, tout ça pour dire que la justice ne va pas si vite que ça. Donc
ça va très très vite avec Trump. La Chambre des représentants, qui est tenue par les démocrates, va voter.
Va voter quand?
Bah là.
Le verbe va voter.
Il s'agit du président, donc c'est normal que ça prenne 3-4 jours. Hein.
À propos de jours, je pense que là, on a fait le tour de la question.
Oui.
Quel était le front au début? On ne sait pas.
Que quoi, pardon, le front?
Mais voilà, on ne sait pas. Le front de la question, le front de l'air est frais. J'ai envie de vous dire à demain. Nous serons mercredi déjà.
Mercredi.
Ça passe vite, non?
Oh là là.
À demain, Gilles.
C'était Les Radoteurs avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Vous les retrouverez demain à 9h55 en podcast sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec le rappeur Abdelmalik. Son livre « Méchante blessure » est toujours en librairie. Et il s'apprête à partir en tournée dans toute la France avec le spectacle « Le jeune noir à l'épée ». Un spectacle inspiré d'une toile du maître Puvis de Chavannes de 1850 dans laquelle il s'est reconnu. Et puis dans les indispensables cinéma avec une interview exclusive d'Edward Norton. Ça sera signé Mathieu Charrier. Il l'a rencontré à l'occasion de la sortie du film « Brooklyn Affairs ». Et le prince qui a marqué l'histoire de la musique, fin pop et rock, c'est Prince évidemment, avec la sortie d'inédit. Angèle Châtelier les a écoutés, elle est à moitié sourde.